RFI, il est 20h à Paris, 19h en temps universel.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, Israël garde le droit de reprendre la guerre avec le soutien de Washington. Déclaration ce soir du Premier ministre israélien en cette veille d'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à Gaza. On va revenir sur ces propos avec notre correspondant à Jérusalem dans un instant. En Syrie, un mois et demi après la chute du régime de Bachar el-Assad, le pays tente de se reconstruire après 13 années de guerre civile. Une opération de grand nettoyage des sites emblématiques de Damas a été lancée par des ONG. Reportage dans un instant. Aux États-Unis, J-2 avant l'entrée à la Maison-Blanche de Donald Trump. Son investiture, c'est lundi. Et parmi les invités, des figures d'extrême droite, mais pas le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Il n'aurait pas reçu d'invitation officielle. Précision dans cette édition. Et puis, environnement, la région méditerranéenne en 2050, dans une situation bien plus alarmante qu'aujourd'hui, selon un rapport de l'organisme Plan Bleu. L'accord de trêve à Gaza doit entrer en vigueur demain matin à 8h30, heure locale. Par la suite, ce sera le premier échange otages-prisonniers. Nous sommes en direct de Jérusalem avec Michel Paul. Bonsoir.
Bonsoir Juliette, bonsoir à tous.
Un premier incident depuis que l'accord a été entériné risque de retarder sa mise en œuvre, Michel.
Israël affirme ne pas avoir reçu la liste nominale des 3 femmes otages qui doivent être libérées demain. Benjamin Netanyahu prévient que l'accord est en conséquence en suspens. Jusqu'à nouvel ordre, la responsabilité en incombe au Hamas, souligne le Premier ministre israélien. Au terme de l'accord, les noms des prisonniers et otages doivent être confirmés 24 heures avant leur libération. Benjamin Netanyahou vient de s'adresser aux Israéliens dans un discours télévisé. C'est sa première prise de parole en amont du cessez-le-feu. Israël atteindra tous ses objectifs de guerre et ramènera tous les otages, promet le Premier ministre israélien.
Le président Trump et le président Biden appuient pleinement le droit d'Israël de reprendre la guerre. Si nous devons reprendre le combat, nous le ferons avec des méthodes nouvelles et de manière extrêmement puissante.
Par ailleurs, une source officielle israélienne indique que selon les estimations, au moins 25 des 33 otages qui doivent être libérés lors de la première phase de l'accord sont toujours en vie. On n'a aucune autre indication sur leur état de santé.
Les précisions de Michel Paul à Jérusalem. Et en cette veille de cessez-le-feu, l'armée israélienne poursuit encore ses frappes sur Gaza. Il y aurait plus de 120 morts depuis mercredi, d'après les secours. Au Liban, le nouveau président, Joseph Aoun, a réclamé aujourd'hui le retrait de l'armée israélienne du sud-Liban le 26 janvier. Un retrait dans les délais fixés par l'accord de cessez-le-feu de novembre dernier, qui a mis fin à la guerre entre le Hezbollah et Israël, a-t-il précisé. Cette déclaration du président libanais est intervenue à l'occasion d'un entretien avec le chef de l'ONU, Antonio Guterres. Antonio Guterres qui a donc rencontré les nouveaux dirigeants libanais. Selon lui, le pays peut espérer un avenir plus prometteur avec un cessez-le-feu qu'il souhaite devenir permanent avec Israël. Le chef de l'ONU s'est également rendu hier auprès des casques bleus déployés à la frontière avec Israël dans le sud du Liban. On reste au Proche-Orient, direction la Syrie. Depuis la chute de Bachar el-Assad début décembre, plus de 200 000 réfugiés syriens sont retournés dans leur pays, selon l'ONU. Le pays tente de se reconstruire après 13 années de guerre civile et un mois et demi après la chute du régime à Damas. C'est également le grand ménage sous l'égide de HTS, Hayat Tahrir al-Sham, le groupe qui a mené la coalition rebelle pour faire tomber Bachar el-Assad. De nombreuses associations et ONG locales ont lancé une opération de grand nettoyage des sites emblématiques de la ville. Reportage de notre envoyée spéciale Sophie Guignon.
Au pied de l'emblématique mosquée des Omeyyades de Damas, des dizaines de volontaires munis de gants et de masques ramassent les déchets et passent le balai. Parmi eux, Youssef Al-Bahra, étudiant syrien en médecine à Montpellier, rentré pour redécouvrir son pays depuis la chute du régime de Bachar al-Assad.
Et nous sommes ici, ça fait dès 7 heures le matin. Il y a tout le monde qui est intéressé à reconstruire la Syrie. Ils ont aussi le courage.
Comme lui, environ 1300 volontaires se sont armés de courage pour faire le grand ménage. Ala est une habitante de Damas.
C'était vraiment chaotique dans le quartier. Il fallait faire le ménage pour rendre notre ville plus belle.
Mais d'autres sont venus de loin, comme Mohamed Tax, membre des Casques Blancs d'Idlib. Il découvre Damas pour la première fois.
La campagne commence aujourd'hui, elle durera 4 jours. On veut nettoyer les lieux emblématiques de Syrie. J'espère qu'on va remettre sur pied le pays. Grâce à nos jeunes, on va reconstruire.
Ces coups de balai sonnent comme une page qui se tourne. Au pied de la Bibliothèque nationale, la statue de l'ancien dictateur Hafez al-Assad a été enlevée. Sophie Guignon, Damas, RFI.
Aux États-Unis, Donald Trump sera officiellement investi président ce lundi 20 janvier pour débuter son mandat. Et contrairement à l'usage, le président américain élu a invité de nombreuses personnalités du monde entier à son investiture. Parmi la liste des invités, on retrouve le président argentin Javier Milei, la première ministre italienne Giorgia Meloni, ainsi que de nombreuses figures mondiales de l'extrême droite. Un politicien brillera par son absence, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui n'aurait pas reçu d'invitation officielle selon son porte-parole. Son entourage laisse planer le doute et laisse entendre qu'il a reçu une invitation personnelle, mais que ses obligations l'empêchent de se déplacer. À Budapest, les explications de Florence Labruyère.
Officiellement, Viktor Orban n'a pas reçu de carton d'invitation à l'investiture de Donald Trump. Pourtant, le Premier ministre hongrois est un admirateur et un allié du nouveau président américain. Cela fait des années que Viktor Orban, dirigeant souverainiste à la tête d'un gouvernement chrétien, noue des liens avec l'ultra-droite républicaine. L'an dernier, Orban s'est rendu en Floride à 3 reprises pour rencontrer Trump. Et le retour de ce dernier à la Maison-Blanche augure d'un nouvel âge d'or entre la Hongrie et l'Amérique, répète le Premier ministre hongrois. Cependant, il ne sera pas à Washington lundi. Selon le journal Politico, il aurait reçu une invitation personnelle, mais aurait décidé de ne pas se rendre à l'événement. Viktor Orban est un allié de longue date de Donald Trump. Il n'a pas besoin de jouer des coudes dans la foule pour montrer son importance ou sa proximité avec le nouveau président, explique le directeur de cabinet du Premier ministre hongrois. Ce dernier n'a pas vraiment de raison d'aller à Washington, car il ne pourrait pas avoir un entretien en tête-à-tête avec Donald Trump. La journée ne s'y prête pas, ajoute le bras droit du leader hongrois. Et preuve que de toute façon, son agenda est beaucoup trop rempli pour se libérer, Viktor Orban prononcera un discours lundi à Budapest, un discours pour faire le bilan de la présidence hongroise de l'Union européenne. Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Pas encore officiellement au pouvoir donc, mais au centre de l'attention, Donald Trump a également annoncé cette nuit le lancement de sa propre crypto-monnaie qui porte son nom, ce qui a provoqué des achats conséquents qui ont fait monter en quelques heures sa valorisation globale à plusieurs milliards de dollars. Le Memecoin, c'est le nom de cette crypto-monnaie, n'a pas d'utilité économique ou transactionnelle et est souvent identifié comme un actif purement spéculatif. Aux États-Unis toujours, TikTok vit ses dernières heures. Hier, à l'unanimité, la Cour suprême a refusé de suspendre une loi interdisant la plateforme, sauf si son propriétaire chinois accepte de la vendre d'ici le 19 janvier, c'est-à-dire demain. Les 9 hauts magistrats ont estimé que les inquiétudes du Congrès en matière de sécurité nationale sont bien fondées. Fin de citation. Environnement à présent avec des interrogations. À quoi ressemblera la région méditerranéenne en 2050? À quels défis devra-t-elle faire face, notamment sur le plan environnemental? L'organisme Plan Bleu, qui dépend du programme des Nations Unies pour l'environnement, tente d'y répondre dans un rapport présenté ce jeudi. Le climat, la démographie et la localisation des activités, voilà ce qui aura le plus d'impact sur la mer, qui est par ailleurs la plus polluée par les plastiques. Sauf changement majeur, la Méditerranée sera d'ici 2050 dans une situation bien plus alarmante qu'aujourd'hui. Selon le rapport, on en parle avec Pauline Glaise.
La Méditerranée est après l'Arctique la région qui se réchauffe le plus vite. La hausse des températures devrait y atteindre les 2,3 degrés en 2050. Or, souligne le rapport, il y a 20 ans, ce cap était prévu pour la fin du siècle. Cela aura des conséquences sur les canicules, les inondations et les sécheresses dans une région où se concentre déjà 60% de la population pauvre en eau. La population qui devrait continuer à croître, surtout, elle devrait davantage se concentrer sur le littoral, un défi pour l'aménagement du territoire. Les stratégies d'adaptation via le dessalement de l'eau ou l'aquaculture, l'écosystème étant perturbé par la surpêche et le réchauffement de l'eau, ne seront pas non plus sans impact écologique. Plusieurs scénarios ont été imaginés, certains plus sombres, d'autres plus optimistes, avec par exemple la mise en place d'un partenariat euro-méditerranéen permettant une neutralité carbone en 2050 ou un modèle de développement durable spécifique. Mais ce que des personnalités interrogées dans le cadre du rapport considèrent comme le plus probable, c'est que les pratiques ne changent pas, une inaction entraînant la dégradation des écosystèmes et des conflits d'accès aux ressources. Plan Bleu appelle donc à une rupture dans les politiques publiques.
Les précisions de Pauline Glaise du service environnement de RFI. RFI, il est 20h10 à Paris. Merci beaucoup de nous écouter.